Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Il y a un an, tous les regards étaient tournés vers le Vatican. Le monde entier attendait le nom du successeur de Benoît XVI. Depuis un an, le pape François n'a cessé de surprendre, d'émouvoir et de susciter un véritable intérêt de la part des croyants, mais aussi des non-croyants. Et au Vatican, de nombreux chantiers sont ouverts. Nous en parlerons longuement dans ce magazine. Au sommaire également, la Syrie, l'Irak, l'Espagne. Et en fin d'émission, nous partirons à la découverte des franciscains de Genève, l'ONG installée non loin du Palais des Nations Unies, fête cette année ses 25 ans d'existence. Le mercredi 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, devenait le nouvel évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle. Un pape venu du bout du monde qui a choisi le nom de François. Le pape François a désormais imposé son style à la fois simple et direct et défini ses priorités dans sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Retour sur cette année écoulée, sur cette présence inédite de deux papes au Vatican et sur les défis de ce pontificat avec Jean-Louis de la Vessière, correspondant de l'agence France-Presse au Vatican et auteur de l'ouvrage « De Benoît à François, une révolution tranquille » aux éditions Le Passeur.
Répondre aux défis du monde moderne, c'est le défi que relève le pape François, être plus réactif, plus au courant, être plus concret. Non pas que le pape Benoît XVI ne savait pas tout, mais il y avait tout de même la curie qui faisait écran, il y avait un manque de communication entre ce pape remarquable intellectuellement et le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, on a des choses comme ce questionnaire envoyé à toutes les églises. On voit bien qu'il y a cette volonté de reprendre contact également avec ce que le pape François appelle les marges existentielles.
Aujourd'hui, situation inédite, nous sommes en présence de deux papes, François et Benoît XVI, qui semble-t-il s'estiment et se respectent. Pourtant, nombreux sont ceux, y compris dans la communauté catholique, qui voudraient les opposer, comme s'il fallait faire un choix, critiquer Benoît XVI pour louer François ou inversement. Comment expliquer cette attitude ?
Je pense qu'il y a une grande rancune de certains catholiques progressistes contre le pape Benoît XVI, accusé de tous les problèmes de l'Église, et donc c'est tout à fait injuste. Et je dois dire que tous mes échos montrent qu'effectivement, il y a une coexistence tout à fait pacifique et amicale entre les deux papes. Le pape François respectant beaucoup le pape Benoît XVI pour sa hauteur théologique et allant le consulter régulièrement, lui montrant des marques d'estime. Je pense aussi que le pape François met en œuvre des grandes orientations du pape Benoît XVI, par exemple, contre le carriérisme, contre une église mondaine. Déjà, Benoît XVI l'avait dit, mais ce pape très énergique que nous avons aujourd'hui a les capacités de le faire et il rudoie, il remet sur la juste voie pas mal de gens, en se faisant aussi pas mal d'ennemis, à mon avis.
Mais cette attitude qui consiste à être ou pro-Benoît XVI ou pro-François, sous-entendant qu'il y a deux courants très différents, ne représente-t-elle pas un danger pour l'Église, pour les catholiques eux-mêmes ?
Oui, certains essaient de jouer de cette prétendue division, mais je crois que le pape François, dans les derniers mois, j'ai observé qu'il a clarifié son message sur pas mal de choses. Il a recadré dans diverses interviews, par divers propos. Il était très clair, par exemple, selon moi, il l'a toujours été, mais il l'a dit plus clairement que jamais, son refus de l'avortement, sa fidélité doctrinale à l'essentiel. Et ça, c'était très clair dans les dernières semaines. Je pense que les groupes progressistes de l'Église qui analysaient ces déclarations devaient se rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas de rupture doctrinale. Il y a tout de même des grands changements. Cette manière d'aller vers les autres, de les considérer, de chercher le dialogue à tout prix. Et aussi, peut-être, je dirais quelque chose de très important, c'est qu'il ne privilégiait pas la perfection, l'idée d'être parfait tout seul. Son idée, c'est qu'il vaut mieux être imparfait mais fraternel qu'être parfait tout seul. Et sur beaucoup de choses, il est très concret. Effectivement, l'Église était un peu crispée sur ses belles idées théologiques. Là, je ne critique pas du tout le pape Benoît XVI, l'Église dans son ensemble. Et avec cette idée de sans arrêt de rappeler la perfection des dogmes. Mais le pape ne veut pas abandonner cet idéal de perfection, mais il veut que le Christ soit annoncé par les autres, par les plus pauvres, par ceux qui souffrent, etc., que ce message qui est profondément dans l'Évangile soit réaffirmé.
Pas de rupture, on est bien dans la continuité, même s'il y a des changements. Il y a eu un problème de perception de ce qu'a représenté Benoît XVI et de ce que représente le pape François.
Ah oui, des perceptions très fortes. Il y a toujours cette ambiguïté. Une partie de l'Église très libérale en Occident attendrait des mouvements du pendule très importants vers la gauche, d'une certaine manière, entre guillemets, hein, qui n'auront pas lieu. Je pense qu'il y a une prise de conscience au cours des 6 derniers mois que ce pape n'est pas de gauche. Mais ça a été lent, parce qu'en France, notamment, certains milieux ont espéré énormément qu'enfin la gauche et l'Église seraient réconciliées. Or, l'Église n'est ni de droite ni de gauche. L'Église, la beauté de l'Église, c'est qu'elle a cette variété de tendances. Et je pense que le pape François veut faire travailler ces différentes écoles en son sein pour la redynamiser, sans en écraser aucun.
Et est-ce qu'on peut dire également qu'il y a eu une certaine prise de conscience, que les dossiers importants sur lesquels travaille actuellement le pape François sont ces mêmes dossiers qui ont été ouverts, initiés par Benoît XVI ?
Oui, c'est une perception qui se fait petit à petit, mais ce n'est pas évident. Beaucoup de gens ont une lecture très simpliste et voient effectivement tout comme complètement nouveau, quelque chose que je récuse totalement. Justement parce que ce pape Benoît XVI, l'importance de son héritage, c'est d'avoir été celui qui pose des bases saines après une période où l'Église était dans une grande crise, justement par exemple sur le thème de la lutte contre la pédophilie, d'autres sujets encore, il a remis l'Église sur une bonne base doctrinale, solide et pure aussi. Et donc c'est à partir de là que le pape François peut travailler.
Jean-Louis de la Vessière, auteur de l'ouvrage de Benoît à François, Une révolution tranquille, interrogé par Hélène Destombes. Le premier anniversaire de l'élection du pape François, le 13 mars, donne lieu ces jours-ci à une avalanche de commentaires et d'analyses. Il faut dire que cette année a été particulièrement intense et qu'elle a suscité une attention renouvelée à l'égard de l'Église, y compris de la part de ceux qui n'entretiennent pas de lien avec elle. La popularité du pape François est énorme, y compris parmi les non-croyants. C'est cet intérêt qui frappe le plus le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, ainsi que l'enthousiasme planétaire que ce pape éveille par son style différent, son approche simple, ses gestes et son message. Jean-Baptiste Cocagne.
De très nombreuses personnes se sont senties touchées en profondeur par sa proximité et ses appels à la miséricorde, souligne le père Federico Lombardi. Il se souvient en particulier de sa première apparition inoubliable à la loggia de la basilique Saint-Pierre dans la soirée du 13 mars, le lavement des pieds, le jeudi saint dans une prison romaine, le voyage à Lampedusa où tant de personnes ont perdu la vie en cherchant un avenir meilleur, la journée mondiale de la jeunesse à Rio, la visite à Assise ou encore le consistoire du mois dernier. Le père Federico Lombardi évoque aussi les audiences générales qui se transforment tous les mercredis en un bain de foule. Le pape François salue d'abord les malades car les plus fragiles ont la priorité dans son cœur. Pour le père Lombardi, le programme de ce pontificat est détaillé dans un texte fondamental, l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. L'église du pape François est dynamique, en mouvement, et les pasteurs doivent guider leurs troupeaux. Le tout dans un processus synodal et collégial. Le Saint-Père demande aux catholiques de sortir vers les périphéries, de se mettre en chemin. Enfin, pour le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, le message du pape François arrive directement au cœur des gens. Il n'a donc pas besoin d'intermédiaire, autrement dit, pas besoin de porte-parole.
Les évêques catholiques syriens se réuniront mercredi en territoire libanais au siège du patriarcat gréco-melkite sous la présidence du patriarche Grégoire Troislame. Les évêques de toutes les églises catholiques de Syrie sont convoqués, tous rites confondus, soit une vingtaine. Mais les organisateurs ignorent si tous pourront sortir du pays pour se rendre au Liban. Xavier Sartre.
À l'ordre du jour, les initiatives mises en place par Caritas pour venir en aide à la population. Le président du Caritas Syrie, Mgr Antoine Odo, évêque chaldéen d'Alep, présentera un rapport détaillé de la situation. Malgré les énormes difficultés et les nombreux dangers, Caritas Syrie continue à travailler efficacement à l'intérieur du pays. Elle offre une aide d'urgence depuis ses centres, qui sont parfois sur la ligne de front. Caritas se veut neutre et impartiale dans le conflit. Elle vient en aide à tous les Syriens sinistrés, qu'ils soutiennent le régime en place ou non, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Caritas distribue des vêtements, des couvertures, des colis de vivres, fournit des hébergements et soigne les malades, y compris à domicile. Des psychothérapeutes aident également les sinistrés à faire face à la dépression et au deuil. La Caritas à Alep a en outre la particularité d'être la seule en Syrie à avoir mis en place un programme de bourse éducative pour les jeunes élèves pour éviter qu'ils ne deviennent une génération perdue. Cette assemblée intervient 3 jours après la libération d'un groupe de religieuses orthodoxes du village chrétien de Maloula qui a suscité une bouffée d'espoir au sein des communautés chrétiennes. Elles avaient été enlevées le 3 décembre dans leur couvent par le Front al-Nosra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Plusieurs évêques et prêtres sont toujours aux mains de leurs ravisseurs, dont le jésuite italien Paolo Dall'Olio, apôtre du dialogue islamo-chrétien. En Syrie, les prises d'otages sont devenues une véritable industrie alimentée par les bandits de tout poil dans un pays dévasté.
En Irak, le patriarche Louis Sacco vient de célébrer le premier anniversaire de son installation à la tête de l'église chaldéenne. Dans une lettre, il reconnaît que sa tâche n'est pas facile. L'Irak n'a pas retrouvé la paix et la stabilité. Les gens souffrent, s'appauvrissent et émigrent. Dans un tel contexte, l'église doit affronter de nombreux problèmes, notamment le manque d'effectifs et de compétences au sein du clergé et des congrégations religieuses, qui se traduit par des faiblesses au niveau pastoral. Le patriarche ne peut pas faire de miracle, avertit Mgr Sacco, qui invite le clergé chaldéen à faire humblement son examen de conscience et à écouter la parole de Dieu pour devenir le signe visible de sa présence et de sa miséricorde. Pour pouvoir affronter les défis actuels avec honnêteté et courage, il faut, dit-il, une spiritualité profonde, un esprit éclairé et ouvert, ainsi que la sagesse et l'enthousiasme nécessaires pour travailler en équipe. Le patriarche Sacco a par ailleurs profité du carême pour appeler les chrétiens irakiens à ne pas déserter leur terre et à ne pas écouter ceux qui les incitent à partir. L'identité chrétienne, souligne-t-il, fait partie de l'histoire et de la géopolitique irakienne depuis 2000 ans. Si nous partons, nous serons déracinés, coupés de nos origines. Selon le quotidien libanais L'Orient le Jour, le patriarche maronite Béchar Araï a offert au pape François la vieille Kédillac dont s'est servi Paul VI en 1964 au cours de son pèlerinage en Terre Sainte. L'idée a été proposée par le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouattoual. C'est le roi Hussein de Jordanie qui, à l'époque, l'avait mise à la disposition de Paul VI et qui, une fois la courte visite achevée, l'avait offerte au patriarcat maronite qui représentait à ses yeux le chef de la plus grande communauté catholique d'Orient. C'est donc le patriarche maronite qui entretient avec soin depuis des décennies cette voiture historique et de grande valeur symbolique. Toujours selon L'Orient le Jour, il fut un temps question de la vendre comme voiture de collection, mais le patriarche Rai s'y opposa. Le véhicule, qui est en bon état, est en cours de révision et de remise à neuf dans un garage spécialisé au Liban. Le voyage de Paul VI en Palestine a ouvert des horizons que personne ne pouvait imaginer, affirme pour sa part le nonce libanais Mgr Farhat. La voiture, principal instrument de son déplacement en Terre Sainte, il se rendit notamment à Nazareth et Bethléem et restait, 50 ans après, la mémoire vivante et le souvenir matériel du mouvement spirituel que Paul VI venait de déclencher. L'Espagne commémorait avec émotion ce mardi 11 mars le 10e anniversaire de l'explosion de 10 bombes dans 4 trains de banlieue à Madrid. Cette série d'attentats avait fait près de 200 morts. Ce bain de sang avait plongé le pays dans la douleur et l'incompréhension. L'archevêque de Madrid a célébré une messe en mémoire des victimes ce mardi matin dans la cathédrale de l'Almudena. Dans son homélie, le cardinal Rocco Varela a fustigé la haine et le mépris de la personne humaine qui sont à l'origine d'une telle cruauté. Il a souligné que la justice et la paix authentique passaient par un repentir profond et radical. L'archevêque de Madrid a par ailleurs estimé que le terrorisme avait été vaincu il y a 10 ans par l'amour fraternel, l'héroïsme et la confiance qui s'étaient manifestés au sein de la population madrilène. Le cardinal Rocco Varela vient de passer 12 ans à la tête de la conférence épiscopale espagnole. Depuis ce mardi, la conférence se réunit en assemblée plénière pour élire notamment toutes les plus hautes charges, sauf le secrétaire. Dans le maquis des organisations non gouvernementales à Genève, ils sont une voix singulière et méconnue. Ils, ce sont les franciscains. L'ordre a en effet une représentation auprès de l'ONU avec un bureau à Genève et un autre à New York. Un autre bureau est aussi installé à Bangkok. L'objectif de cette ONG est de faire du plaidoyer auprès des Nations Unies à partir des expériences de terrain de la famille franciscaine dans le monde pour réduire les injustices en faveur des plus vulnérables. L'ONG travaille sur de nombreuses problématiques qui touchent à la justice sociale, au droit environnemental ou encore encore à la sauvegarde des populations indigènes. Francesca Restifo est la directrice du plaidoyer de Franciscan International. On l'écoute.
L'activité du plaidoyer de Franciscans International consiste en deux lignes principales, la ligne menée à New York et la ligne menée à Genève. On travaille sur la justice environnementale et sur les droits de l'homme. Mais la chose principale, c'est qu'on utilise toujours un rights-based approach. Donc, c'est toujours un angle de juridique, de comment on essaie d'aborder les thématiques, même les thématiques environnementales. On a des focus thématiques surtout sur les droits des enfants. Et notamment, on est spécialiste dans l'activité de plaidoyer international dans l'enregistrement des naissances pour garantir ce qu'on appelle Universal Birth Registration. On estime que ça, c'est un pas très important pour garantir une identité juridique et donc des droits à les personnes. Et on a aussi une niche très spécifique sur la question des mines et des violations des droits des humains liées aux mines dans les régions d'Amérique latine, en Afrique et en Asie. Ça touche évidemment aussi la question des peuples autochtones sur lesquels nous travaillons aussi. Notre activité de plaidoyer est surtout basée sur le travail que les franciscains, tout le réseau des franciscains à la base font. Donc c'est basé aussi sur la relation que nous avons avec eux. On essaie d'être vraiment un pont pour donner la voix aux préoccupations des franciscains du terrain, donner une voix à l'ONU.
Justement, c'est peu courant qu'une famille religieuse soit représentée auprès des Nations Unies. C'est important justement de porter ce message de la doctrine sociale de l'Église auprès des Nations Unies. Comment vous vous y prenez ?
C'est très important de donner une voix surtout des franciscains qui sont un groupe des religieux qui travaillent vraiment avec les pauvres dans une façon pauvre. Donc, ils connaissent très bien quels sont les types de... pas seulement de violations, mais d'injustices sur le terrain. Et donc, c'est très important d'amener leurs expériences à l'ONU pour changer, pour vraiment essayer d'avoir un changement dans la législation internationale, mais aussi nationale. Et d'ailleurs, avec mon expérience, l'ONU, les experts internationaux, donnent vraiment beaucoup d'importance au travail de Franciscans International parce que c'est basé sur le travail des Franciscans du terrain. Donc ça vient vraiment du terrain.
Vous êtes très apprécié par les différents acteurs avec qui vous travaillez, les acteurs du monde entier ?
Mais oui, depuis des années, depuis 25 ans, on a bâti une réputation donc à l'ONU, une expertise aussi sur le plaidoyer international. Souvent, c'est vraiment les experts de l'ONU qui nous demandent l'avis sur certaines thématiques ou certains pays ou situations nationales spécifiques.
Est-ce que vous diriez que votre travail est de plus en plus difficile ? On a l'impression que les crises se multiplient. Crise liée à des situations de conflit, mais aussi crise environnementale, puisque vous avez parlé de ça, la violation des droits humains. Il y a mille et un théâtres de crise dans le monde entier. Est-ce que c'est plus difficile de travailler aujourd'hui, plus le temps avance, qu'il y a 25 ans ou il y a 15 ans ?
Je ne crois pas que ça soit plus difficile aujourd'hui par rapport il y a 20 ans ou 25 ans. Je crois que la situation a changé surtout au niveau de pauvreté, parce que la richesse et le modèle vers lequel on va, ça crée des nouveaux couches de pauvres. Ce qui était autrefois la classe moyenne devient de plus en plus pauvre. Et donc ça, il faut tenir compte. C'est un peu le travail que nous faisons à travers le bureau de New York, à travers l'activité qu'on fait sur le développement durable et surtout à travers un de nos thématiques cibles qui est la pauvreté extrême. On essaye de se détacher d'une approche économique à la pauvreté, donc tout ce que c'est les stratégies pour réduire la pauvreté qui se basent seulement sur le facteur économique. Et on essaye vraiment de regarder plutôt les facteurs humains et les droits humains qui sont dans ce type de stratégie et de politique. La participation du terrain dans la société et dans les politiques qui touchent directement les pauvres.
Francesca Restifo, directrice du plaidoyer de Franciscan International, interrogée par Olivier Benel. Je vous rappelle avant de terminer que les exercices spirituels de la Curie romaine se poursuivent jusqu'à vendredi hors du Vatican, en présence du pape François, dans une maison religieuse située à une trentaine de kilomètres de Rome. Il n'y aura donc pas d'audience générale ce mercredi. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.